Bonjour à tous, je m'appelle Zaki et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du blog selancerensante.ca. Vous retrouverez ici régulièrement des entrevues d'entrepreneurs du secteur de la santé. Vous découvrirez leur parcours, leurs réussites et leurs astuces. Vous pourrez aussi retrouver un résumé des entrevues sur le blog ainsi que d'autres articles, en espérant que cela puisse vous aider et vous inspirer dans votre aventure entrepreneuriale. Bonne écoute!
Donc bonjour, aujourd'hui je reçois Alexis Goujon, physiothérapeute et aussi podcasteur. Donc je vais faire, j'ai fait des recherches sur toi. Tu vas me dire si je me suis trompé ou si j'ai oublié.
Donc, tu dois pas avoir trouvé tant de choses que ça.
Tu me diras. Donc tu es physiothérapeute, tu as gradué de l'UDEM en 2018.
Ouais,
tu travailles actif à Saint-Eustache. Tu es un pratiquant de sport, tu pratiques du ski de fond, vélo de route, course à pied, volleyball. Tu as lancé récemment à l'automne 2020 le podcast Parle-moi de santé. Tu es pas mal de présent sur plusieurs plateformes, donc j'ai vu Spotify, Twitter, YouTube, une plateforme de podcast Balado Québec aussi.
Ouais, en audio, on est sur Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Balado, Balado Québec. Donc, pas mal les principales. Puis, en termes de réseau, bon, les classiques, là, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter un peu moins, mais c'est un peu plus pour les professionnels de la santé. Là, Twitter, on dirait que la population générale est un peu moins sur Twitter, mais je le fais juste pour qu'on puisse toucher un peu à tout le monde.
C'est parfait, ça. Et qu'est-ce que je... Oui. Donc, j'ai vu quand même pas mal sur YouTube. Tu es quand même rendu à un peu plus de 1000 vues. C'est quand même pas mal.
Ouais, quand même.
Quand même, là, en 5 épisodes, je crois. Ouais, c'est ça.
Ouais, exact. 5 épisodes.
5 épisodes. Ton premier épisode, tu as quand même commencé fort parce que tu as interviewé Blaise Dubois.
Ouais, exact.
Ceux qui ne connaissent pas, c'est la clinique du coureur. Donc, et puis, tes thèmes thématiques. Que j'envoie à date, c'est pas mal sur la course à pied, les douleurs, les troubles alimentaires chez les athlètes. Et puis là, récemment, tu as interviewé le président de l'Association québécoise de physiothérapie.
Ouais, exact. Puis un scoop pour toi, mais là, si tu diffuses ça après-demain, ça ne sera plus un scoop. Mais il y a l'épisode 6 qui va sortir demain sur les commotions cérébrales. Donc, je reçois le neuropsychologue Dave Ellenberg. Donc, un autre gros nom sur le podcast.
Bravo! Donc, au niveau de ton parcours, est-ce que tu aurais des précisions à faire?
Ben, ça ressemble vraiment à ça. Là. Tu sais, moi, ça fait pas des années que je pratique comme physiothérapeute. J'ai fait mon université à l'Université de Montréal de 2014 à 2018. Cohorte exceptionnelle, vraiment. Ça fait 2 ans que je pratique. Puis, je travaille à temps plein, là, vraiment en pratique privée, donc en clinique privée, clientèle musculo-squelettique. Donc, monsieur, madame, tout le monde, sportif ou non, grosse blessure ou petite blessure, on voit vraiment de tout. Puis, ça ressemble à ça vraiment au niveau professionnel. Là. Le podcast, c'est vraiment plus récent comme projet, comme tu disais tantôt.
C'est ça, ben. Tu vas essayer de me préciser ça. Pourquoi l'idée du podcast, qu'est-ce qui t'a amené à choisir la plateforme de podcast plutôt qu'une autre plateforme?
Ouais, mais c'est la meilleure question, puis c'est probablement la question que j'ai le plus souvent. De un, l'idée du podcast, ça vient des réalisations que j'ai faites dans la première année et demie de ma pratique. Donc, moi, j'ai gradué à l'automne 2018. Donc, à partir d'octobre, j'ai commencé à travailler. Puis, tu sais, déjà au mois de mai 2019, donc ça faisait environ 6 mois que je pratiquais, déjà, j'avais fait plusieurs réalisations, plusieurs constatations. Et la plus importante, c'est que les gens ont un immense manque en termes d'informations en matière de santé. Et c'est un gros problème pour tout ce qui a trait à la consommation des soins de santé. Donc, les gens sont des mauvais utilisateurs des soins de santé. On a beaucoup de surmédicalisation, on a beaucoup de surmédicamentation. Puis, tout ce qui a trait à l'optimisation des soins, il y a des très grosses failles. Et je pense qu'il y a une grosse partie qui passe par un manque d'éducation des gens. Puis ça part vraiment de la jeune enfance, là. Donc, déjà jeune au primaire, au secondaire, faudrait éduquer la population, faudrait éduquer les gens pour que les gens aient une meilleure information, savoir qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux, parce que ça, c'est un autre problème qu'on a en 2020. Les réseaux sociaux ont démocratisé la parole. Donc, que tu sois chercheur le plus réputé au niveau mondial ou que tu sois n'importe qui dans ton sous-sol avec un micro, tout le monde a une voix. Et les gens, des fois, ont de la misère à différencier qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Puis ça, c'est la première constatation que j'ai faite en clinique, c'est que l'intervention la plus pertinente que je fais avec mes clients, c'est pas ce que je fais en termes de traitement manuel, c'est pas ce que je fais en termes d'exercice spécifique, c'est l'éducation que je fais aux gens. Et donc, ça, c'est la prémisse de base. Donc, la première réalisation que j'ai faite, puis je me suis dit comment je peux toucher plus de gens à la fois en même temps. Parce que quand je suis en clinique privée avec quelqu'un, c'est un à un. Donc, à chaque fois que je prends la parole, c'est une seule personne qui est touchée. Alors que maintenant, avec ce podcast-là, ben, à chaque fois que je parle, à chaque fois que je reçois un invité puis qu'on échange sur un sujet, ben, là, pour commencer, c'est des centaines de personnes. Puis là, déjà, ça commence à être plus des milliers de personnes. Puis éventuellement, c'est cette communauté-là que je veux qu'ils grandissent pour que à chaque fois qu'il y ait une information avec une rigueur scientifique, avec des experts qui ont une réputation notable et qui sont vraiment rigoureux dans ce qu'ils font, ben c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui soient touchés. Donc, la prémisse de base, elle part vraiment de là. Puis, pour répondre à ta deuxième question, pourquoi le podcast? Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai jamais autant fait de voiture parce que moi, j'ai pas eu de voiture comme étudiant. J'ai pas eu de voiture à l'école. Je prenais le transport en commun, le train, le métro, le bus, comme tout bon Montréalais. Puis, vu que je travaille sur la Rive-Nord puis que j'habite à Montréal, ben j'ai pas eu le choix d'acheter une voiture. Puis moi, je suis pas un grand fan de la voiture à la base. Donc, je me suis acheté une petite voiture usagée, bien, bien confortable. Et ça m'a confronté au trafic. Puis, j'ai vraiment horreur du trafic et donc, je devais trouver une façon de pas perdre patience et de pouvoir trouver l'espèce de transport quand même agréable et c'est les podcasts que j'ai découverts. Donc, depuis 2 ans, je me suis abonné à des dizaines et des dizaines de chaînes de podcasts. J'écoute de toutes sortes de podcasts et ça a été comme pour moi la révélation en termes de façon de consommer l'information. Il y a des études qui sont sorties dernièrement qui prédisent le podcast comme étant un marché éventuel, un marché économique réel. Je pense que les médias traditionnels ont encore leur place, mais on a tout plein de médias alternatifs et le podcast est assurément une excellente plateforme. Puis j'aime aussi l'aspect conversationnel. Donc, on peut échanger. Ce n'est pas juste des entrevues de 7 minutes comme on voit à la télé. Le podcast, ça permet la liberté. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amené à vouloir créer le podcast et à choisir cette plateforme-là.
Ben, écoute, t'es pas mal comme moi. Moi aussi, je fais beaucoup de domicile et puis je suis beaucoup dans mon auto. Et puis, j'ai découvert les podcasts. Vraiment, ça a été cet été parce que il y avait la pandémie, je faisais beaucoup d'auto, je cherchais un moyen en même temps de m'informer et tout. Et puis, j'ai découvert les podcasts et j'écoute des podcasts variés comme toi, que ça soit d'ici. C'est pas mal international, les podcasts. Donc, que ça soit d'Europe et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde des podcasts.
Okay. Ouais, puis c'est ça qui est le fun, c'est que ça donne une liberté de l'information au rythme qu'on veut parce que la télé, là, c'est sûr que de plus en plus, les émissions puis tout ça, c'est disponible en rattrapage ou en diffusion plus tard, mais tu sais, si on recule aux 10-15 dernières années, la télé, si tu manquais l'émission, tu manquais l'émission. Là. Tu ne pouvais pas rattraper cette information-là. Alors que le podcast, c'est l'aspect de pouvoir écouter ça au rythme qu'on veut. Puis c'est ça que j'aime du podcast.
Non, et puis t'as vraiment raison. Alors, on le voit que nos habitudes de consommation fonctionnent. Moi, personnellement, la télé, je l'écoute pratiquement plus parce que j'ai pas le temps, mais tout ce qui est Netflix, Prime Video, des choses comme ça, ben, je les écoute parce que ça me permet de les écouter au moment où je suis disponible. Et le podcast, c'est la même idée.
Ouais.
Donc, les podcasts. Si j'ai bien compris, tu t'y es mis à peu près au mois de mars 2020, tes premiers enregistrements. Qu'est-ce que tu allais chercher comme compétence au niveau du podcast? Parce que j'imagine que bon, tu devais connaître plus ou moins ça, mais au niveau des, par exemple, des montages audio, réseaux sociaux, et des plateformes d'enregistrement, le micro que tu utilises, qu'est-ce que tu allais chercher?
Ouais, ben en fait, c'est ça. À partir du mois de mai 2019, j'ai eu l'idée. Donc là, j'ai mis ça sur papier. Je me suis fait une espèce de brainstorm où j'ai lancé un peu toutes les idées parce que mon étape numéro un, c'était de monter le concept. Donc, c'était de trouver un concept, trouver une espèce de structure de qu'est-ce que j'allais vouloir faire, puis surtout de trouver une ligne directrice. C'est quoi l'objectif du projet? Donc, une fois que j'ai mis ça sur table, ça a été quasiment, je dirais, 6 à 8 mois de juste de la recherche. Okay? Donc, ça, c'est la partie la plus plate. C'est aussi la partie que j'ai le plus eu de up and down dans ma motivation au projet. Il y a au moins 5 à 10 fois où je me suis dit non, 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 c'est fini, puis je mets tout ça aux poubelles. C'est ça. Ça a été 6 à 8 mois de recherche parce que ça a l'air comme si je connais la technologie parce que je suis créateur d'un podcast, puis que je suis le créateur, réalisateur, producteur, monteur, technicien. Je fais 100% de tout ce qui se publie, donc de A à Z. La seule chose que je fais pas, c'est la job de l'invité. Okay? Puis, mais en réalité, puis les gens qui me connaissent bien vont le savoir, je suis pas du tout un techno-geek. Donc, je connais absolument rien à la technologie. Puis, tu sais, encore une fois, on se connecte ensemble, puis c'est moi qui avais de la misère à t'entendre. Donc, ça a été la première. Le plus gros défi, ça a été ça. Comment trouver le bon matériel? Comment trouver le bon micro? Puis ça, là, je ne peux pas le dire assez parce que peut-être qu'éventuellement, il y a des gens qui vont écouter ton podcast puis qui vont vouloir se lancer en podcast. S'il y a une chose qui vaut la peine, c'est de prendre le temps de trouver un bon micro. OK? Parce qu'il y en a plein des excellents podcasts auxquels je suis abonné, puis ils enregistrent ça sur leur téléphone ou sur leurs écouteurs, sur leur micro d'ordinateur, puis la qualité du son, c'est pas bon. Puis malheureusement, leur contenu est excellent, mais si la qualité du son est pas bonne, les gens ne l'écoutent pas. Quand on met l'audio dans une voiture avec, tu sais, le système de son qui est intégré, ça sonne un peu cacane, puis c'est pas, t'sais, ça sonne comme si on est dans une canne, justement, écho, là, puis c'est pas de la bonne qualité. Fait que la priorité, ça a été le micro. J'ai changé 3 fois d'idée de micro. J'avais même mon panier Amazon. J'ai quand même encore une fois changé parce que j'ai réalisé que mon setup ne fonctionnait pas. Fait que ça a été la première étape. La recherche matérielle, je te dirais que c'est facilement 100 à 120 heures de recherche qui vont là-dedans. Des heures et des heures d'écoute de vidéos YouTube. Parce que chacun des YouTubers qui font de la verbalisation par rapport au matériel audio, ils ont chacun leur préféré, hein. Ils ont leur micro préféré, puis tout le monde vante leur micro. Mais pour le concept que moi j'avais, pour le type d'environnement que j'avais, il a fallu que je trouve le bon micro pour moi. Donc ça a été probablement la première étape. Beaucoup de recherche à ce niveau-là. Ensuite, ça a été de trouver les logiciels. Fait que quel logiciel j'allais faire pour enregistrer l'audio. Puis j'ai opté pour un logiciel gratuit qui est Audacity, qui va vraiment merveilleusement bien, là. Puis tu sais, sur Mac, je pense que les gens utilisent peut-être plus GarageBand ou quelque chose comme ça. De mon côté, Audacity, vraiment aucun problème avec ça. C'est là-dessus que je fais le montage audio. Puis ensuite, ça a été de trouver un logiciel pour faire le montage vidéo. Puis encore une fois, le défi, c'est auto-financé, hein? C'est moi qui paye pour que je produise mon podcast. Il y a personne qui paye, il y a personne qui commandite, en tout le moins pas encore, on commence. Peut-être qu'éventuellement, il y a des gens qui vont vouloir être partenaires, puis ça va me faire plaisir à ce moment-là. Mais le défi, c'est toujours ça. Comment offrir le maximum en payant pas trop cher? Parce que veux pas, je peux pas non plus m'endetter en faisant un podcast puis avoir un contenu qui est de niveau télévision professionnelle. Fait que j'ai trouvé un logiciel de montage vidéo qui n'est pas parfait, mais qui est gratuit, qui fonctionne bien. Donc ça me satisfait aussi. Puis, tu sais, en termes de compétences, pour le montage, je pense pas que j'ai de compétences ou de skills particuliers pour ça. Je pense que j'ai une tête dure puis que je suis débrouillard. Donc, ça a été beaucoup d'essais-erreurs, ça a été beaucoup de lectures, beaucoup de regarder sur YouTube comment ça fonctionne. Puis, au final, quand quelqu'un a un projet qu'il veut réaliser puis qui est motivé, en général, on trouve la façon pour le faire. Fait que c'est sûr, probablement que la majorité des monteurs vidéo passeraient 50% moins de temps que moi à monter le produit. Mais au final, le projet, ça ressemble à ce que moi je veux. Puis, c'est ça, j'ai été capable de le construire comme ça. Fait que je suis pas allé me former, je suis pas allé, parler nécessairement à des gens qui ont fait des podcasts. Puisque j'en écoutais, j'avais déjà un peu une idée de quel genre d'ambiance, si on veut, je voulais reproduire. Donc, une ambiance plutôt conversationnelle. Là. Comme toi et moi, on jase, puis on est là. C'est pas formel avec des questions précises prévues d'avance. Donc, ça, c'est ce qui me plaît le plus. J'ai publié mon épisode 4. C'était mon premier épisode, celui avec Marie-Claude Saint-Amour. C'est le premier épisode que j'ai enregistré en février. Puis celui avec Blaise, c'est peut-être autour du 12e. Donc, si les gens regardent, ils vont vraiment voir qu'il y a une différence dans le flow général, tu sais, comment ça coule dans le podcast. Puis, tu sais, c'est normal qu'il y ait des moments où tu es moins confortable et tout ça, mais ça fait partie de l'apprentissage. Puis je pense que c'est juste beau de voir qu'il peut y avoir une progression avec les épisodes. Puis tu sais, l'autre affaire, puis qu'on le mentionne dans tous les aspects de notre vie en ce moment, la foutue COVID, là, ça l'a bouleversé un peu tout, hein? Parce que mon projet initialement, c'était prévu pour sortir au printemps 2020. Moi, tout était prêt. J'avais déjà enregistré 4 épisodes avant que la pandémie éclate. Et pendant le mois de mars, avril, mai, juin, j'avais comme 12 invités de planifier, déjà bookés à mon horaire. Puis quand la pandémie est arrivée, bien évidemment, ça a été 3 mois à la maison de confiné. Donc, tout annulé. Vu que je n'avais pas encore commencé puis que je n'avais même pas rien sorti, on dirait que je voulais une certaine constance dans le contenu puis dans le produit. Fait que j'ai juste décidé de faire un petit délai puis de sortir ça à l'automne, puis content de l'avoir fait parce qu'une fois qu'on a pu ouvrir les studios d'enregistrement à partir du 1er juin, évidemment avec des mesures sanitaires, bien là j'ai pu enregistrer. Puis cet été, juin, juillet, j'en ai enregistré 12. Ça a été vraiment un boom d'enregistrement très, très, très intense. Mais ça fait en sorte que là j'arrive au mois de septembre, puis je peux en sortir. Puis là, encore une fois, on est reconfiné au mois d'octobre. Fait que là, à voir si je vais pouvoir continuer d'enregistrer. Si oui, ça va être encore avec les mesures strictes. Mais c'est ça, il a fallu que j'adapte mon contenu. Puis les gens, tu sais, je l'ai mentionné dans les premiers épisodes, les gens vont remarquer, il y a quelques podcasts qu'on est vraiment à côté, comme on est sur un coin de table, puis on prend des photos un peu les mains sur les épaules de l'autre parce qu'on a enregistré ça avant la pandémie. Mais là, depuis la pandémie, il a fallu que je change un peu l'organisation de la chose. Fait qu'on est vraiment au bout de chacun de la table. Ma table mesure 1,91 m, donc c'est exactement le 2 mètres qu'on a de besoin. Avec le micro et la distance de la chaise, ça fait 2 mètres. On prend des photos à distance. Les gens y rentrent avec leurs masques, des infections, tout ça. Fait qu'on s'adapte. Le mot d'ordre, c'est vraiment d'être malléable. Puis je pense que l'innovation vient un peu de la contrainte, là. Donc plus on a de contraintes, plus on doit être créatif pour chercher des façons de faire. Fait que un autre défi, mais tu sais, ça permet quand même de continuer à faire rouler le projet.
Ben oui, comme tu dis, là, de manière, c'est dans ces temps incertains, on fait tout le temps d'adaptation au quotidien, donc on n'a pas le choix de. Juste par curiosité, là, mon côté podcasteur, là, qui j'utilise comme micro là.
Là, j'utilise le Samsung Q2U. Je ne sais pas si Samsung va m'envoyer un chèque pour la publicité. Ouais, c'est ça. Il ressemble vraiment on est un peu dans les podcasts geeks, là, mais le Audio Technica, qui est un autre micro, il ressemble vraiment au même. Mon choix numéro 1, c'était le Blue Yeti, comme tu as mentionné tantôt. Mais finalement, j'ai opté pour le Samsung Q2U parce que c'est un micro USB. Donc, tu sais, là, on se parle en ce moment, je peux le plugger directement dans l'ordi, mais c'est aussi un micro XLR. Donc, je peux le brancher dans une console de son pour avoir mon interface audio, puis c'est ça que j'utilise, moi. Donc, au lieu de brancher 2 micros dans l'ordi, qui est un setup vraiment compliqué, à moins que tu aies l'équipement pour faire ça, bien, je branche les 2 micros dans une console audio, puis la console audio dans l'ordinateur. Fait que ça a été le setup le plus facile, là. C'est pour ça que j'ai opté pour ce micro-là.
Ok, ben moi, tu vois, tu as parlé d'Audio Technica, c'est ce que j'utilise au niveau du micro et au niveau du casque aussi. Là. J'ai bien aimé la marque, c'est quand même assez abordable. Et comme tu dis, c'est un micro USB, mais qui est quand même de bonne qualité.
Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on a les mêmes écouteurs aussi, là, probablement si c'était les Audio Technica.
Ça ressemble, ouais. De ce que j'en vois dans la vidéo, ça ressemble.
Il va falloir qu'ils nous envoient nos compensations.
On va essayer de faire. message. Donc, ton organisation des podcasts, donc ce que j'en déduis, c'est que tu as commencé ça au mois de mars, il y a eu une pause et puis tu as fait une batch d'enregistrement cet été. Donc là, à date, on en discutait un peu en off, mais à date, tu en diffuses à peu près un par semaine, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. J'ai commencé une fois par semaine au début. Même, je pense qu'il y en a eu trois dans les premiers 10 jours, là, parce que j'essaie toujours de créer une espèce d'engouement au début pour que, tu sais, les gens embarquent dans le projet. Puis, veux pas, au début, faut amener les gens dans le projet. Faut amener les gens sur les réseaux sociaux parce que mon but, c'est de pouvoir communiquer ça à plusieurs gens, à plusieurs personnes plutôt. Donc, le plus il y avait de personnes qui embarquaient dans le projet, le mieux c'était. C'est pour ça que j'en ai publié beaucoup au début. Là, comme je t'ai dit, on est rendu à 5. J'ai publié aux semaines. Là, le sixième qui sort demain, donc le 9 octobre, va avoir été 10 jours plus tard. Ensuite, ça va être 10 jours, puis après ça va être aux 2 semaines. Donc, 2 semaines, c'est le rythme que je veux maintenir là, pour la suite des choses. Dans un monde idéal, je ferais ça à chaque semaine, mais il ne faut pas oublier que je travaille à temps plein. Donc, tu sais, puis je dois mettre facilement 20 heures par semaine en plus sur le podcast. Donc, tu sais, je fais des sports, j'ai des amis, j'ai une copine à voir aussi. Donc, tu sais, veux pas, il y a autre chose aussi qu'il faut qu'ils prennent du temps. Fait que une fois ou 2 semaines, ça va être le rythme que je vais maintenir pas mal régulier, puis ça va permettre d'avoir tout le temps un bon contenu. Ça va aussi me permettre de rester motivé à faire ça parce que c'est ça l'autre côté de la médaille, là. Quand on rentre dans un projet comme ça, on peut un peu oublier le sommeil et tout ça, là, puis ça peut partir assez vite, là. Fait que je veux maintenir une espèce d'équilibre là-dedans, puis être capable de faire ça longtemps. Parce que le but, c'est pas de faire ça 1 an, c'est de faire ça dans un monde idéal jusqu'à
Sur
temps que j'ai.
plusieurs années.
Exact. 70, 75 ans, on ne sait pas. On va voir où est le monde. Peut-être qu'il n'y aura plus de podcast, on ne le sait pas. On va voir qu'est-ce que ça donne.
Mais en plus, je le comprends, c'est très demandant. Tu fais ta recherche sur tes invités, tu prépares tes questions, tu t'ajustes suivant les invités aussi à ton process. Après, tu fais le montage audio, après, tu fais la promotion sur les réseaux sociaux. Ton outil de promotion, c'est ta page Facebook, c'est bien ça?
Ouais, ben. J'utilise Facebook et Instagram comme les deux plateformes principales. J'utilise aussi mon LinkedIn personnel. Donc, je n'ai pas créé de LinkedIn pour le podcast parce que ce n'est pas vraiment pertinent, mais sur mon LinkedIn professionnel, personnel, je fais aussi la promotion de mon podcast parce que je veux pas, c'est un réseau où je développe avec beaucoup de professionnels de différents milieux. Puis, c'est une belle façon aussi de publier du contenu qui a aussi un impact sur les professionnels de la santé. Fait que les gens qui veulent en savoir plus sur la course à pied, ben, ils ont eu accès par LinkedIn aux vidéos ou à l'épisode avec Blaise. Facebook, j'utilise beaucoup. Ce que je remarque, les jeunes semblent dire que Facebook, c'est mort, puis qu'on n'utilise plus ça. Puis je suis vraiment d'accord pour ceux qui ont en bas de 30 ans, t'sais? Parce que je le vois là. Instagram, c'est vraiment beaucoup plus jeune, OK? Les gens qui vont suivre ça. Fait que ça marche extrêmement pour les jeunes. Fait que c'est pour ça que les influenceurs et tous ces gens-là sont sur Instagram. Mais si tu regardes la population générale, il y a encore beaucoup plus de gens sur Facebook. Puis c'est encore sur Facebook que ça marche, ce genre de projet-là, parce que je veux pas juste rejoindre les 0-30 ans. Je veux rejoindre aussi les gens jusqu'à 99 ans, 100 ans. Fait que Facebook, c'est, t'sais, en termes de population plus en haut de 30 ans, si on veut, ou en haut de 40 ans, les gens sont encore plus Facebook qu'Instagram. Fait que c'est important de développer les deux.
Mais j'entends quand tu me dis Facebook, oui, c'est pas pour les jeunes. J'ai une ado à la maison et quand je lui demande pourquoi t'as pas Facebook, Facebook c'est pour les vieux. C'est ça qu'elle me répond à chaque fois.
Ouais, c'est ça.
Mais donc là, t'as Facebook et quand même Instagram. Je sais pas si tu sais, c'est quand même pas les mêmes codes de diffusion, c'est les mêmes algorithmes et tout. Est-ce que toi tu t'es adapté, t'as fait des recherches à ce niveau-là, comment diffuser sur Facebook, comment diffuser sur Instagram, ou alors c'est le même contenu que tu fais. Tu vois, moi je le fais par exemple. Là, je viens d'ouvrir un Instagram il y a pas longtemps, je l'ai pas encore publié, mais tu sais, je mets du contenu dessus. Mais moi personnellement, je me casse pas trop la tête, c'est du copier-coller. Mais je sais que normalement, je devrais faire des codes différents sur Instagram, est-ce que toi tu le fais?
Ben, tu vois, c'est une question que je me pose parce que c'est un peu le dilemme entre vouloir que les gens suivent le projet parce que mon but, c'est de rejoindre le plus de gens possible. Et de l'autre côté de la médaille, il y a une espèce de limite qu'il faut que je me mette à la quantité de temps que je mets sur les réseaux sociaux. Parce que les gens qui font ça de leur vie, qui sont sur Instagram, sur Facebook, qui créent du contenu, ils passent littéralement 40, 50, 60 heures semaine à faire que ça. Puis moi, ben, je fais 35, 40 heures semaine à la clinique, puis 15, 20 heures semaine à travailler sur le podcast. Si je veux vraiment faire tout ce qu'il faut pour que Instagram et Facebook soient le plus vus possible, je t'offrais environ 3 mois, puis après ça, je ferais un burn-out, c'est sûr. Fait que moi, j'ai fait un choix de publier ce que je veux publier. Pas mal le même format sur Facebook qu'Instagram. C'est sûr qu'Instagram, c'est un peu différent. Sur Facebook, on peut mettre des liens qui sont cliquables. Sur Instagram, on ne peut pas. Donc, tu sais, j'adapte un peu à ce niveau-là. Sur Instagram, les stories marchent un peu plus que sur Facebook. Puis sur Facebook, on n'a pas de story associée à une page. Fait que moi, c'est une page, le podcast, et c'est pas un compte personnel. Fait que, tu sais, ça ne marche pas de la même façon. Fait que pour répondre, tu sais, clairement à la question... J'ai pas fait de recherche là-dessus. Je sais que si tu pousses les recherches sur Internet, tu peux trouver c'est quoi le meilleur jour, la meilleure heure, le meilleur moment pour publier sur Instagram, sur Facebook. Il y a des gens qui utilisent ça pour mousser leur publication. Tu sais, j'avais écouté un podcast à un moment donné, puis c'était quelqu'un qui, justement, parlait de comment avoir des clics et avoir tout ça. Puis c'est des affaires de faut que tu publies 3, 4, 5 fois par jour. Faut que tu sois tout le temps dans la face des gens. Puis, tu sais, ça va un peu contre mes valeurs, là. Mon but, c'est pas de monter une popularité personnelle, c'est de monter une popularité du projet juste pour rejoindre des gens. Fait que, faut aussi que je me surveille là-dedans parce que je veux pas rentrer dans cette espèce de dépendance aux réseaux sociaux. Tu sais, je sais pas si tu as écouté, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix ou un documentaire éditorial, ça s'appelle The Social Dilemma, qui vient de sortir sur Netflix. Fait que, tu sais, moi, je recommande vraiment aux gens d'aller voir ça parce que ça met vraiment dans la face des gens ce qu'on consomme et ce qu'on est par rapport aux réseaux sociaux. Fait que c'est un peu un documentaire qui parle de toutes les conséquences que les réseaux sociaux ont puis l'espèce de grosse machine de dépendance que ça a créée. Fait que je pense qu'il faut surveiller, tu sais, les dépendances aux réseaux sociaux, c'est les mêmes processus dans le cerveau que les dépendances à l'alcool, à la drogue, aux autres choses. T'sais, toutes les dépendances, ça passe par le même endroit dans le cerveau. C'est les mêmes molécules chimiques, si on veut. Moi, mon but, c'est pas qu'en 6 mois, j'aille 100 000 personnes qui suivent. C'est sûr, ce serait le fun parce que je veux qu'il y ait des gens qui aient accès à ce projet-là, qui aient accès à l'information. Ça ira au rythme que ça ira, puis je pense que juste par le bouche à oreille, en ayant des invités qui peuvent amener le podcast dans leur communauté aussi, c'est ça qui va faire la job. Puis peut-être éventuellement, si j'ai des revenus, je vais engager quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de peut-être un peu plus l'aspect réseaux sociaux à ma place. C'est probablement l'aspect qui prend le plus de temps. Là, la job facile, c'est de s'asseoir puis parler avec quelqu'un. T'sais, ça prend 2 heures. Le reste pour un seul épisode, c'est peut-être 1h30 avec l'invité, puis 6 à 8 heures de recherche, de montage, de publicité, etc.
Ouais. Mais oui, c'est ça. Ben, tu vois, moi, pour la petite histoire, là, mon côté blog, réseaux sociaux me prend beaucoup de temps. Là, je me suis arrangé avec quelqu'un qui va m'aider à prendre en charge cette partie pour que je me concentre plus sur le podcast parce que là, je compte plus mes heures depuis 2-3 mois. C'est...
ouais, c'est ça. Parce que toi, tu travailles aussi à temps plein?
Oui, à temps plein. Je suis aux études, j'enseigne, je fais plein de choses.
Tu as des enfants.
Ça, exact. Donc oui, je peux te comprendre sur cet aspect-là de temps disponible qu'il nous faut pour faire... parce qu'il y a un gros travail en arrière et...
Ouais, clairement.
Pas, on veut faire de la qualité à chaque fois, donc ça nous prend du
temps. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, pour avoir de la qualité, si tu fais un épisode comme j'ai fait avec Blaise Dubois, qui est le leader de la clinique du coureur, ou, c'est une organisation affranchie, là, donc il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est Blaise qui l'a fondé, la clinique du coureur. C'est lui qui est à la base de ce projet-là. Au Québec, tous les physiothérapeutes, beaucoup de professionnels de la santé connaissent Blaise, même les gens dans la population. Fait que si moi, j'ai 1h20 à jaser avec Blaise, ben, faut que je me prépare, tu sais, puis il faut que je connaisse mon sujet. Parce que lui, il n'y aura pas de problème pendant l'épisode à me remettre à ma place puis à dire que je dis n'importe quoi, tu sais. Fait que, puis une chance qu'il fait ça, une chance que tout le monde fait ça. Fait que, tu sais, pour un épisode comme ça, ça peut être 4 heures, ça peut être 5 heures de recherche, ça peut être, tu sais, de connaître l'invité. C'est important de connaître l'invité. C'est une conversation. Fait que ça peut pas être juste une entrevue. Faut déjà que j'aie certaines réponses. Faut déjà que je connaisse un peu le sujet. Puis si on parle de course à pied pour éduquer les gens, ben, veux pas. Moi, je suis physiothérapeute, je vois des coureurs. Faut que j'aie cette expertise-là. Faut que j'aie ces notions-là. Fait que beaucoup de recherche, clairement, mais ça vaut la peine parce que ça donne du contenu qui est beaucoup plus riche en termes de qualité pour les gens.
En parlant de tes invités, est-ce que tu as des thématiques, tu te fais un planning de thématiques, par exemple, ce mois-ci, je vais parler de la course à pied, ce mois-ci, je vais parler de la nutrition, ou c'est suivant tes invités, suivant les invités que tu reçois, tu choisis les thématiques? Comment ça se passe?
En fait, quand j'ai commencé à planifier ce podcast-là, je m'étais déjà fait, dans mon brainstorm, une liste de sujets que je veux aborder. Puis, les deux choses que je dois garder en tête quand je choisis un sujet, c'est numéro un, et ça c'est primordial, est-ce que ça va intéresser la population, les gens en général? Pas juste les professionnels de la santé, parce que oui, il y a des professionnels de la santé qui écoutent le podcast, mais moi je veux aussi que mon oncle, ma tante, ma grand-mère, ta grand-mère, ton grand-père écoutent le podcast. Je veux que les gens puissent écouter ça et comprendre. Parce que si on part juste dans un langage scientifique précis, on perd les gens, puis ça, ça donne rien. Alors que si on garde un langage bien vulgarisé, ben les gens qui ont le background scientifique sont contents et les gens qui veulent en apprendre plus aussi sont contents. Fait que la première chose que j'ai faite, c'est mettre sur papier plein de sujets que je voulais aborder, plein de professionnels de la santé que je voulais recevoir. Puis tu sais, là, dans les premiers épisodes, il y a eu beaucoup de physiothérapeutes, mais t'sais, ça a juste à donner comme ça que les épisodes se diffusaient, mais j'ai enregistré avec au moins 30-40% de professionnels qui sont autres que des physiothérapeutes. Fait que ça va venir dans les prochains épisodes. Donc, je me fais une liste de noms. Je sais qu'il y a des gens extrêmement calés dans certains domaines. Je sais qu'il y a des gens que je veux recevoir juste parce qu'ils ont une notoriété en termes de... dans le visage du public, qui ont une rigueur scientifique, qui ont qui sont crédibles. C'est surtout la crédibilité qui est importante. Est-ce que les gens, quand j'invite cette personne-là, est-ce que les gens adhèrent à ce qu'ils disent? Est-ce que c'est des gens qui représentent bien leur sujet? Parce que tu peux paraître très bien connaisseur d'un sujet puis dire un peu n'importe quoi. Tu sais, le charisme et la confiance peut camoufler bien du manque d'informations. Fait que c'est important que les gens soient des bons, qu'ils maîtrisent bien le sujet. Ça, c'est super important pour moi. Et ensuite, il faut que ce soit des gens que je pense qui vont offrir une conversation qui va être le fun, que les gens vont vouloir écouter. T'sais, parce que si les gens écoutent ça puis que c'est monotone et que c'est plate puis qu'il n'y a pas d'intonation puis qu'il n'y a pas de... ils ne se sentent pas engagés dans la conversation, les gens vont décrocher. Fait que ça, c'est ma façon de fonctionner. Puis après ça, ben c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de courriels que j'envoie. Des fois, je rejoins les gens par leur page Facebook. Des fois, je rejoins les gens par leur courriel professionnel, leur courriel d'école. Des fois, c'est du bouche à oreille. Là, depuis que j'ai sorti le podcast, il y a des gens qui m'écrivent directement pour me dire qu'ils veulent venir au podcast. Fait que ça commence à être le fun parce que ça crée un engouement, ça crée une espèce de plateforme où les gens veulent venir parler d'un sujet qui sont experts ou qui sont spécialisés. Fait que ça, c'est le fun aussi. Beaucoup de bouche à oreille par de connexion. Fait que quelqu'un qui me réfère à telle personne. Puis, tu sais, il faut que je le mentionne, là, honnêtement, les gens sont extrêmement généreux de leur temps, sont extrêmement généreux de venir au podcast parce que j'ai reçu des gens là, qui ont des agendas de premier ministre, là, qui sont... à la tête d'organisation, tu sais, comme on parle comme Blaise Dubois, comme j'ai dit, demain, ça va sortir avec Dave Ellenberg, la nutritionniste Alexia de Macar que j'ai reçue. Tu sais, c'est des gens là, qui ont des agendas hyper occupés, puis que si tu veux un rendez-vous avec eux pour un service professionnel, des fois, tu peux attendre un mois, deux mois, trois mois, puis c'est des gens qui ont vraiment répondu à l'appel, fait que moi, je les remercie vraiment profondément, puis je leur dis quand ils viennent, je suis vraiment content qu'ils aient accepté. Tu sais, évidemment, je ne paye pas les gens 1 200 $ quand ils viennent chez moi pour parler. Donc, ils viennent de leur temps. Ils donnent du temps au projet. Puis, c'est ça que j'aime du podcast. Moi, je vois ça un peu comme un aspect coop communautaire. Donc, moi, j'offre gratuitement aux gens quelque chose. Puis, en retour, ben plusieurs invités m'offrent un peu de leur temps pour qu'on puisse offrir ça aux gens. Fait que c'est vraiment la façon que je fonctionne, puis je trouve que c'est vraiment la beauté du podcast. C'est sûr que quand les gens vont à Radio-Canada, ben, ils ont un cachet pour parler 7 minutes de leur sujet. Malheureusement, ce n'est pas le budget que moi j'ai. Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais c'est la façon que j'utilise pour sélectionner les gens, pour être capable d'aller chercher ça. Mais ça passe vraiment par la générosité des gens. S'il n'y avait pas ces professionnels-là qui étaient aussi généreux, le podcast, il serait rien.
Ouais, effectivement, quand tu parles de générosité, c'est vrai qu'en plus, par les temps qui courent, on est en plein COVID. Donc là, j'imagine qu'il y a l'aspect personnel qui rentre en compte, mais ils arrivent quand même à prendre du temps pour venir te voir. Mais en même temps, c'est un peu de la réciprocité. J'avais écrit un article dessus. De contenu, de communication et tout, veux pas indirectement, ben, eux te donnent des choix pertinents, des sujets pertinents que tu peux parler à ton public, ce que tu voulais, mais en même temps, tu leur donnes une visibilité aussi, tu sais, via le podcast, diffusé, tu es sur les réseaux sociaux, donc c'est du donnant-donnant aussi.
Ouais, c'est sûr, mais tu sais, je suis très d'accord avec toi. C'est sûr que quand Blaise Dubois vient ici puis il obtient une visibilité sur mon podcast, je sais pas si ça lui revient tant que ça, là. Tu sais, clairement qu'il y a des gens à qui j'ai fait découvrir la clinique du coureur parce que moi, j'en parle à des dizaines de gens par mois, puis c'est pas tout le monde qui connaît. Fait que tant mieux, toutes les gens qui rejoignent la clinique du coureur pour ça, ou toutes les autres professionnels, Alexia Demacor que j'ai reçu, que j'ai aussi partagé ses liens. C'est des professionnels qui sont tellement pertinents. Il y a plus de gens qui ont besoin de suivre ces professionnels-là pour avoir, encore une fois, comme je le disais, la quête, c'est un meilleur accès à l'information. Fait que s'il y a plus de gens qui sont bien informés, qui suivent les bonnes personnes, c'est la cause commune. Fait que c'est sûr que c'est donnant-donnant. Le but, c'est toujours d'avoir un échange. Probablement que pour l'instant, eux me donnent un peu plus que moi, je suis capable de leur donner. Mais au final, c'est des gens super généreux de leur temps puis qui aiment le projet, qui aiment contribuer à ça. Fait que les gens en santé, qui travaillent dans le réseau de la santé, c'est des gens qui veulent aider. Fait que c'est pour ça qu'ils sont là. Puis moi, je le vois aussi dans la générosité qu'ils donnent comme temps. Fait que c'est vraiment super.
Ouais, puis tu fais la même chose avec moi. Tu me donnes de ton temps aujourd'hui pour...
Ouais, ben exact. Aussi,
c'est exact. L'entrée. On ne veut pas pour travailler dans la santé, il faut avoir de l'entraide, il faut aimer, promouvoir. Je pense que c'est toutes ces qualités que tu as et que tu essaies de transmettre dans ton podcast.
Ouais, c'est ça. C'est stimulant.
Ouais. Je suis curieux, est-ce que toi, bon, je sais que c'est quand même assez récent, est-ce que tu as commencé à suivre au niveau des statistiques d'écoute de ton podcast?
Ouais, écoute, je suis allé voir un peu, tu sais, je ne suis pas encore un expert analyste de ça. Je sais que Spotify, Google Balado, Apple Podcast, ils ont un système de comptabilisation des statistiques, des vues, des clics, des abonnements et tout ça. Je suis peut-être allé voir 5 fois là, depuis que j'ai commencé ça. Donc, peut-être une fois par semaine, je vais là-dessus. Surtout parce que j'étais curieux au début de voir, parce qu'on peut voir les pays. On peut voir les pays d'écoute. Puis déjà, dans les premières semaines, j'avais des écoutes en Belgique, en France, en Norvège. Puis tu sais, évidemment, il y en a beaucoup que ça qui est dû au premier épisode parce que la Clinique du coureur a aussi une plateforme Clinique du coureur en Europe. Donc, ça a été super pour ça. Puis depuis ce temps-là, il y a des Français, des Belges qui m'écrivent personnellement pour me dire, tu sais, c'est cool, maintenant, j'en apprends plus un peu aussi sur le système de santé du Québec avec l'épisode 5, par exemple. Fait que c'est cool de voir parce que, veux pas, au niveau mondial, tout le monde s'influence un peu. Puis on a tout le temps des leaders un peu dans chacun des domaines à l'international. Puis c'est important que les gens soient au courant de qu'est-ce qui se fait ailleurs pour savoir c'est quoi la meilleure façon d'optimiser, par exemple, des soins de santé. Fait que oui, je suis un peu ces statistiques-là. Les endroits où c'est le plus facile de voir, c'est par exemple sur YouTube ou quand je publie des vidéos sur Facebook, Instagram, parce qu'on a le nombre de vues ou on a le nombre de personnes atteintes. Encore une fois, sur Facebook, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Par exemple, le premier extrait avec Blaise que j'ai publié au début, c'était quelque chose comme 10 000 atteintes, mais je ne sais pas ça représente quoi. Est-ce que c'est juste le nombre de personnes qui ont vu le vidéo défiler? T'sais, c'est probablement pas 10 000 personnes qui l'ont écouté au complet. C'est difficile à comprendre à ce niveau-là.
Ce que j'en ai compris, moi, pour Facebook, quand tu parles, par exemple, de 10 000 personnes atteintes, c'est suivant les nombres de personnes qui ont vu, par exemple, ton épisode ou qui ont vu ta publicité et tout. Eux ont un certain nombre d'entourages autour et si tu multiplies à chaque fois toutes les sphères, ça équivaudrait à 10 000. Mais comme tu dis, après, là, tu regarderas, mais je pense que tu as le nombre de clics ou le nombre de vues tout court.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus sur YouTube qu'on a la meilleure idée vraiment du nombre de vues réelles pour une vidéo. Mais sinon, sur les plateformes, comme je t'avais dit, de balado, on peut les voir aussi. Le nombre d'écoutes ou le pourcentage d'épisodes écoutés. Fait que si les gens y arrêtent après 50% ou 60%. Je m'en fais pas trop avec ça, honnêtement, pour l'instant. Là. Que j'ai 2 écoutes ou 2 000 ou 2 millions, moi, le projet, il est là, puis il va continuer. Puis les gens vont embarquer tranquillement ou ils vont débarquer. C'est pas pour tout le monde, hein. Il y en a que ça les intéresse pas, puis c'est correct aussi. Moi, mon but, c'est de créer quelque chose qui plaît à la majorité des gens. Mais au final, tout le monde consomme un peu ce qui les rejoint.
Puis ça prend aussi quand même une certaine régularité et tout. Tu vois, dans le premier épisode que j'ai fait, là, j'avais interviewé un ostéopathe, Jérôme Cazerolle. Donc lui, ça fait à peu près un peu plus d'un an qu'il faisait ça. Mais tu vois, au début, ses nombres de vues étaient quand même assez limités à chaque épisode de tout. Et puis, il me disait à peu près à partir du 30e épisode, ça a eu un effet boule de neige. Et là, il est rendu à peu près à une 40 000 écoutes sur ses 100 podcasts. Donc,
wow.
Ouais, t'as la régularité qui paye, t'as la pertinence de tes sujets, mais il y a la régularité qui joue beaucoup. Et puis, c'est un effet sur le long terme. Il ne faut pas l'attendre sur le court terme. Quand tu as des stratégies de communication comme ça, c'est comme des publicités. La première publicité ne va jamais payer, mais c'est la régularité de tes publicités qui vont commencer à force à payer, à marquer les gens, à se rappeler de toi et ainsi de suite. C'est le même principe.
Ouais, exact. Puis tu sais, si tu oublies pour laquelle tu fais ton projet, tu sais, personnellement, ces choses-là, ça passe assez vite de côté. Là. C'est pas tu peux pas faire ça pour obtenir une popularité. Parce que si tu fais ça pour être populaire, regarde les complotistes en ce moment sur Internet, ils sont beaucoup plus populaires que moi puis ils disent des niaiseries. Fait que pas besoin de créer du contenu de qualité pour être populaire. Fait que si tu gardes les raisons en tête pour lesquelles tu fais ça, c'est ces choses-là, on les oublie.
Et puis au niveau de tes stats, juste par curiosité, là, je serais curieux de savoir, est-ce que tu as regardé un peu l'âge des personnes qui t'écoutent? Est-ce que c'est plus les jeunes? Est-ce que c'est plus les trentenaires? Est-ce que c'est qui c'est que t'attires plus au niveau de tes écoutes?
Ouais, ben c'est Spotify qui me donne la meilleure statistique pour ça. C'est elle qui me donne le plus de détails. La majorité de mes écoutes, c'est entre 20 et 35 ans. Fait okay. Que c'est comme les jeunes adultes, si on veut. Puis je pense qu'après ça, en deuxième, c'est comme les 35-45. Là. Mais c'est ça, j'ai quelques écoutes en haut de 80. Fait que ça doit être ma grand-mère qui écoute ça, puis la grand-mère de quelques-unes des autres personnes. Ça ressemble à ça. Fait que c'est, puis tu sais, on dirait que c'est ce que je m'attendrais parce que le podcast, c'est beaucoup plus populaire chez les jeunes. Fait que encore une fois, quand je parle de mon projet à des adultes, qui sont plus vieux que, par exemple, 50 ans, ils me parlent « Ah, bravo pour ton blog, bravo pour ton blog. » Puis je dis aux gens, c'est pas un blog, c'est un podcast, mais je leur dis merci parce que je comprends l'essence de leur message. Mais la conception de c'est quoi un podcast, c'est encore pas clair pour beaucoup, 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 beaucoup de gens, même si ça fait, honnêtement, puis tu sais, le Québec, on est en retard là-dessus. Là, aux États-Unis, le podcast, c'est présent depuis plus de 10 ans, là, déjà très, très, très fort. Puis au Québec, on a Mike Ward qui est le dinosaure ou le père fondateur du podcast, si on veut, avec son podcast Sous Écoute. Fait que, tu sais, je dirais que c'est ça en termes de proportion, là, d'âge, mais une des raisons pour laquelle je fais ça aussi, puis c'est que je veux rendre ce média-là accessible aux gens qui ne croient pas qu'ils aimeraient ça ou qui ne connaissent même pas ça. Fait que les plus de 40 ans, les plus de 50 ans, c'est aussi eux que je vise. Je veux les amener dans cette plateforme-là parce que les moins de 35 ans, je le sais qu'éventuellement, ils vont découvrir les podcasts. Il y en a une majorité qui sont là-dessus en ce moment.
Est-ce que tu dirais que les podcasts, c'est encore un peu récent, mais est-ce que tu dirais que ton podcast surtout, est-ce que directement ou indirectement, ça a été bénéfique pour ta pratique de physiothérapie à ta clinique? Est-ce que ça t'a, par exemple, des clients t'ont dit « Ah, j'ai écouté ton podcast » et puis peut-être que ça t'a ramené un nouveau client ou pas du tout? Est-ce qu'il y a eu un effet dessus?
L'effet commence à se faire sentir, OK? Je pense pas que c'est arrivé encore, à tout le moins, ça s'est pas rendu à mes oreilles que des gens ont appelé à la clinique pour dire « Je veux être traité par le Alexis de Parle-moi de santé ». Moi, j'en parle à mes clients du podcast parce que, veux pas, quand j'ai un coureur dans ma clinique qui a une blessure, ben, honnêtement, s'il écoutait mon podcast épisode 1, 90% de la job, elle serait faite. OK? Oui. Pour la majorité des gens. Puis là, tu sais, peut-être que des gens vont dire qu'ils ne sont pas d'accord parce que ça prend une approche spécialisée avec chacun des gens, puis je suis 100% d'accord. Mais il y a des grands concepts généraux de blessures qu'on explique dans ce podcast-là que si tout le monde savait, là, on aurait tellement plus d'efficacité à traiter les blessures. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de mon temps à clinique qui est perdue à juste lutter contre des croyances et contre de la désinformation. Puis il faut trouver aussi, il faut trouver la limite, il faut choisir nos batailles dans ce temps-là. Mais assurément, ça amène un peu plus d'intérêt à ce niveau-là. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui m'ont écrit pour échanger, pour collaborer, parce qu'ils ont vu le podcast sorti. Tu sais, je pourrais pas dire que ça amène de la clientèle. De toute façon, tu sais, mon podcast est 100% indépendant de ma pratique. Donc, c'est pas financé, promotionné, publié par ma clinique. Mes patrons sont hyper supporteurs de mon projet. En fait, tu sais, c'est eux qui m'ont même aidé à partir ce projet-là avec des idées et tout ça. Fait que ça, je les remercierai jamais assez. Ils vont partager les épisodes sur leurs médias sociaux parce que évidemment c'est juste des concepts généraux de santé qui sont pertinents pour les gens, comme d'autres pages vont partager ça. Mais comme retombée de clients précisément, je ne vois pas nécessairement si ça se fait, c'est peut-être léger, peut-être que ce sera plus éventuel. Honnêtement, de toute façon, podcast ou pas podcast, nos cliniques sont pleines tout le temps. Là. Fait que on n'a pas de problème de clientèle. Des gens blessés, il y en a à chaque coin de rue.
Mais j'adore ce que tu fais pour vrai, enseigner, promouvoir, informer les gens. C'est ce que j'essaie de faire moi à travers ma plateforme aussi. Mais moi, c'est plus un côté entrepreneurial pour les entrepreneurs de la santé. Mais toi, c'est plus un côté pour tous les sportifs en fait. Mais j'adore ça. Comme tu dis, il faudrait que tout le monde fasse juste de la prévention, de la promotion. On éviterait tellement de blessures chez tout type de sportifs et tout type d'âge. Alors j'adhère, franchement.
Ouais, clairement. Puis un des enjeux que les gens ne comprennent pas aussi, on parle tout le temps de vouloir changer le système de santé. On parle de vouloir optimiser le système de santé. Puis on a l'impression que c'est les 40 à 70 ans qu'il faut convertir pour changer le système de santé. On doit changer leurs croyances. Tu sais, puis là, je fais un parallèle. C'est la même chose avec tout ce qui se passe au niveau politique en ce moment, puis au niveau sociétaire. Fait que tout ce qui est la question du racisme, les droits des personnes autochtones et tout ça. Puis le parallèle étant, arrêtons d'essayer de juste vouloir changer la mentalité des gens qui est très, très bien ancrée de 40 à 70 ans. Puis prenons les jeunes à partir du primaire, donnons-leur de l'éducation en matière d'histoire, donnons-leur de l'éducation en matière des enjeux racisme, sexisme, etc. Puis donnons-leur des cours d'éducation physique à chaque jour, des cours de cuisine à l'école. Tu sais, si tu veux que ton adulte de 40 ans soit un bon utilisateur des soins de santé ou un bon consommateur des soins de santé, ben il faut que comme enfant, il se fasse apprendre à être un bon consommateur. Nos habitudes de vie, là, on les acquiert quand on est jeune, puis on va maintenir ça. Puis c'est difficile de changer des gens qui sont très bien ancrés dans leur routine, dans leurs croyances. Fait que c'est aussi pour ça que je veux éventuellement peut-être avoir des présences dans les écoles, peut-être aller rencontrer les jeunes dans les classes, aller rencontrer des coachs sportifs. Combien de milliers de gens au Québec, des dizaines de jeunes au Québec font du sport scolaire? Est-ce que leurs coachs sont sensibilisés, par exemple, aux commotions cérébrales, par exemple, à la pratique excessive de sport, d'un seul sport, à la surspécialisation d'un sport très jeune? C'est des enjeux de santé publique plus tard. Là. Puis, tu sais, on est tout le temps en train de sauver la vie des gens dans les hôpitaux, dans le système de santé, mais qu'est-ce qu'on peut faire avant ça, dans les années précédentes, pour éviter de devoir sauver leur vie 30-40 ans plus tard? Fait qu'il y a aussi cet aspect-là de vouloir changer les mœurs, changer les croyances, changer la façon qu'on perçoit l'ensemble du système de santé, puis juste l'ensemble de notre santé en général.
Bravo, t'as tout compris. C'est préventif au lieu de prendre le train en route, le récupérer d'abord à la gare. Et ouais, non, c'est ça. C'est comme tu dis. Là, moi, je trouve qu'on a une politique, sans rentrer dans les détails, On a toujours une politique d'essayer de corriger les erreurs du passé au lieu d'anticiper les futures erreurs et de s'y prendre plutôt par la promotion, la prévention, comme tu veux le faire chez les plus jeunes. C'est un très beau projet. Mais là, j'en déduis un peu indirectement que tu as quand même d'autres projets futurs en plus du podcast. C'est bien ça?
Ben, j'ai. Je suis un
C'est
peu
encore.
un. C'est encore. J'ai beaucoup d'idées, c'est sûr. Tu sais, j'ai débuté des squelettes ou des brainstorms de conférences ou de trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais qui se passent. Ce ne soit pas nécessairement beaucoup de choses. Ce n'est pas nécessairement des choses que je veux faire absolument. Mais il y a beaucoup de trucs que je me dis, ça, il faudrait que ça se fasse. Ça, il faudrait que ça se fasse. Puis, tu sais, j'ai une seule vie, là. On va voir c'est quoi le nombre de choses que je suis capable de faire. Aussi, je pense que si on s'embarque à 30% dans 10 projets, t'es pas plus avancé que de 100% dans 2 ou 3 projets. Pour moi, en ce moment, puis les prochaines années, ma priorité, c'est d'être un bon physiothérapeute. C'est d'être un podcasteur qui amène du contenu pour les gens, d'éduquer les gens. Puis, tu sais, on verra les opportunités que ça amène. Tu sais, moi, ce que je rêve, c'est qu'un jour, ce genre de projet-là ou ce genre de promotion-là de la santé, on en parle dans les grandes plateformes, tu sais, comme À tout le monde en parle, où on reçoit des gens beaucoup plus impliqués dans la promotion du sport chez les jeunes, la prévention en santé, tu sais, tout ça. On parle beaucoup des enjeux actuels, puis c'est important, tu sais, c'est important de parler d'actualité, puis de parler de où on en est en ce moment. Mais si on met beaucoup d'énergie à essayer d'optimiser le présent, on pense pas au futur tout de suite. Fait que, tu sais, si on veut que dans 20 ans, on soit quelque part de mieux, ben, faut regarder c'est qui va voter dans 20 ans, puis c'est qui va être adulte dans 20 ans. Puis ça, c'est les jeunes, tu sais, c'est les moins de 18 ans. Fait que c'est là que ça se passe aussi. Moi, je pense que ceux qui font des interactions dans les écoles, ceux qui font des interventions dans les écoles, peu importe le sujet, là, c'est là que ça se passe parce que c'est ces gens-là qui vont être moulés éventuellement. Leur cerveau est encore malléable, leur cerveau est encore en développement, sont en train de se construire. Fait que oui, il y a des volontés de faire d'autres projets. Quand j'étais à l'université, j'ai coaché au volleyball au niveau secondaire à mon ancienne école. Ça, c'était une super expérience en termes de coach, mais je réalise que maintenant, des années plus tard, je ferais ça différemment. Tu sais, il y a des façons de promouvoir le sport et il y a des façons d'avoir un contact avec les jeunes par rapport à leur façon de voir le sport que je ferais différemment. Fait que peut-être qu'éventuellement, tu sais, si j'ai des enfants éventuellement dans les prochaines années, c'est sûr que de s'impliquer au niveau des sports, ça va être quelque chose qui va se faire naturellement. Tu sais, peut-être qu'avec des collaborations autres, ça va être quelque chose qui est possible plus tôt, mais il y a une volonté de vouloir intervenir auprès des jeunes, clairement, parce que je pense que les jeunes ont beaucoup plus d'impact sur les générations futures. Tant mieux si ça change les croyances et les mythes ancrés dans la tête de ceux qui ont déjà pas mal leur chemin de vie fait, parce que veux pas, c'est eux en ce moment qui consomment les soins, là. C'est pas les moins de 20 ans qui consomment le plus de soins de santé, là, tu sais. Fait que faut qu'eux aussi aient accès à cette information-là. Mais pour répondre concrètement, il n'y a pas d'autres projets en branle en ce moment actuellement. C'est beaucoup d'essayer de consolider ce qui se passe en ce moment, puis de stabiliser les choses, là, que ce soit de plus en plus accessible comme projet.
Tu as quand même un objectif d'année, tu t'es dit dans un an ou deux, je veux. Par exemple, moi, là, je te parle dans mon cas, moi, j'ai fait comme toi, un gros brainstorming, c'était cet été, je me suis dit dans 2, 3 ans, je veux faire ça, 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 ça passera par ça, par ça. Puis mensuellement, je me fais des objectifs smart. Donc ce mois-ci, il faut que je diffuse tant d'articles, je fasse tant de podcasts, il faut que j'obtienne tant de fans sur ma page. Est-ce que tu as des objectifs comme ça réguliers ou pas?
Je me fixe des objectifs seulement sur les choses que je contrôle. Fait que je vais me fixer des objectifs par rapport à combien d'épisodes je veux diffuser, combien de publications je vais faire pour faire la promotion des épisodes qui sont sortis. À combien de personnes je vais écrire pour tâter le terrain par rapport à les recevoir éventuellement sur le podcast. Donc, ça, c'est le genre de choses sur lesquelles j'ai un contrôle. Les genres de, les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, j'ai tendance à laisser ça de côté. Fait que d'avoir le nombre de personnes qui me suivent ou d'avoir le nombre de clics, je fais confiance au processus, je fais confiance au bouche à oreille. Les gens me disaient, ça fait même pas un mois, puis tu as des centaines de personnes qui ont suivi déjà sur la page Facebook et tout ça. Pour vrai, c'est fantastique, mais ça aurait pu être 500 000. Puis pour moi, ça ne change pas grand-chose, autre que peut-être faut que je fasse plus attention des fois aux niaiseries que je dis si j'en dis. Mais tu sais, honnêtement, le contenu est pareil, la mission est pareille. Qu'il y ait 1 million de personnes ou 10 personnes qui écoutent l'épisode, la qualité de l'épisode ne sera pas différente. La rigueur scientifique et professionnelle de l'invité que je reçois ne sera pas différente. Fait que j'ai tendance à essayer d'avoir le contrôle sur les choses, ben justement, d'agir sur les choses que moi je contrôle. Je laisse un peu aller les autres choses parce que je pense aussi que l'anxiété, c'est un grand enjeu de santé, plus que jamais actuellement. Et la majorité de l'anxiété que les gens peuvent vivre, puis là, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais de ce que je vois même aussi dans ma pratique, parce que j'en vois des gens qui sont anxieux, qui consultent pour des blessures, et ça nuit à leur récupération. Ça, c'est un autre enjeu, un autre sujet complètement. Mais tout ça pour dire que quand on essaie de contrôler des choses qu'on ne contrôle pas, ça génère de l'anxiété, ça génère du stress. Fait que j'essaie de m'en libérer, j'essaie de ne pas contrôler ça. Puis à date, c'est ce qui fonctionne bien. Je pense que la clé, c'est d'avoir un bon sommeil aussi, de bien dormir, de faire du sport, de toujours avoir de l'énergie pour ça. Fait que je mets du temps là-dedans, puis le reste des choses, j'essaie de délaisser ça.
Je pense que tu as une belle philosophie de vie, honnêtement, parce que tu arrives à lier tes projets professionnels, mais avec ta santé en même temps. Tu essaies de réduire au niveau de ton anxiété, tu le dis, tu fais juste ce qui te plaît et au rythme qui te plaît. Non, je pense que moi, je le vois personnellement. Là, je suis dans une charge de travail intense et par exemple, j'ai laissé de côté tout ce qui est loisirs, sport et tout. Et puis, ça a un impact négatif, comme tu le dis, sur ma productivité et tout. Mais je le sens à travers ton podcast, à travers tes récits, à travers ce que tu m'as dit aujourd'hui. Tu es quand même une personne équilibrée qui a réfléchi pas mal à l'avance, qui veut quand même garder un rythme de vie sain, entre guillemets. Non, je pense que tu as compris ça plus que moi.
Ben, puis tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que, veux pas, je suis un peu, je suis pas hyperactif comme personne, mais je suis un peu hyperactif dans la volonté de s'impliquer dans des projets. Fait que tu sais, même plus jeune, tu sais, à l'université, ou même si je remonte au secondaire, je faisais, je jouais au hockey, puis en même temps, je jouais dans l'équipe de soccer de l'école, puis en même temps, j'étais impliqué dans un comité ici ou un comité là, puis j'ai toujours aimé faire plusieurs choses. Fait que, même chose à l'université, j'étudiais à temps plein, puis je travaillais, le long de mes études, j'ai travaillé comme sauveteur, puis éventuellement, j'ai fait même mes cours pour devenir instructeur, moniteur en sauvetage. Fait que déjà là, la volonté d'enseigner aux jeunes était présente. Fait que j'ai donné des cours de natation, puis éventuellement des cours de sauvetage. Fait que je formais les prochains sauveteurs. Puis on dirait que plus j'étais occupé, mieux je gérais mon temps, mais sans négliger les autres aspects. Fait que l'aspect de sport, l'aspect de la vie sociale, la famille, tout ça. Fait que, tu sais, à l'université, quand j'étudiais, j'ai été 3 ans dans l'association étudiante comme représentant sportif. Fait que, tu sais, on a voulu créer avec ma co-représentante sportive, on a créé des événements sportifs, on a organisé des tournois, des choses comme ça pour les gens. Fait que je pense que c'était un peu déjà dans ma nature de vouloir organiser des choses, d'impliquer des gens dans le sport. Puis on dirait qu'il y a un aspect de plus on est de gens dans un projet, plus c'est le fun. Puis ça devient contagieux, cette humeur-là.
Non, et puis comme tu dis, moi j'adore là, le parcours que tu m'expliques. Moi je trouve que c'est à partir de nos parcours personnels ou professionnels qu'on apprend beaucoup. Et puis veux pas indirectement par ton parcours que tu as fait, par tes projets à l'école ou dans les clubs sportifs et tout. J'ai l'impression que ça a quand même un impact sur ton podcast parce que tu as envie de transmettre des choses que tu as appris ou que tu as vues ou des erreurs que tu as vues. Tu as envie de le transmettre. Et veux pas qu'on parle aller peut-être faire des choses un peu plus grandes dans des conférences ou dans des écoles et tout. Et je pense que ton expérience a fait que t'as ces idées en ce moment.
Pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, tu sais, j'écoutais, je ne sais pas si c'est à tout le monde en parle que j'ai entendu ça, mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé cette semaine. Puis il disait, la façon que tu vis tes journées, c'est la façon que tu vis ta vie. Fait que si à chaque jour, tu es tout le temps débordé, tu ne dors pas, tu es stressé, tu ne fais pas de sport, tu coupes ci, tu coupes ça, ben c'est comme ça que ta vie, elle est. Fait que ta vie se définit par ce que tu fais à chaque jour. Les gens, ils disent tout le temps, ouais, mais là, je travaille fort pour qu'après ça, je puisse relaxer. Mais c'est un peu faux parce que la façon que tu bâtis ton quotidien, c'est la façon que ta vie va devenir. Puis c'est la façon que ta vie, elle est bâtie. Veux, veux pas, on se crée un peu nous-mêmes notre vie, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des périodes où on va être plus occupé, plus stressé, puis ça vient par phase, là. Je pense à des gens qui ont des travails saisonniers ou des choses comme ça, tu sais. Puis, exemple, moi, le lancement du podcast, ben c'est sûr que ces semaines-là, j'ai travaillé plus fort. Mais rapidement, si tu regardes la moyenne de tes journées, ça ressemble à quoi? Ben, ça va être pas mal ça, ta vie. Fait que, faut que les gens se surveillent là-dedans quand ils sont entrepreneurs, quand ils ont des... Tu sais, je me considère pas entrepreneur, là. Je pense que je suis juste créateur d'un projet, puis peu importe comment on appelle ça, tu sais. Ça peut être entrepreneur, mais qui fait pas d'argent pour l'instant, là.
Mais oui, c'est ça. On a notre machine, notre corps, là, on n'en a qu'un. Puis si on n'en prend pas soin régulièrement aussi, il ne veut pas, avec tous les projets qu'on peut avoir, si notre corps ne suit pas, on arrive au burn-out.
Exact. Puis tu viens de mettre le mot exactement. Puis tu sais, quand je te disais que des fois, mon cerveau, il pense naturellement à des projets, à des choses. Hier, juste avant de me coucher, c'est exactement ça, à ça que j'ai pensé. Puis ça, j'y pense régulièrement. Les gens, là, ils mettent des milliers de dollars pour entretenir leur maison, pour entretenir leur voiture, pour entretenir leur équipement sportif, leur vélo, leur gadget. Ils achètent des iPhones à 1 000 $. Ils n'ont aucun problème à sortir l'argent du compte de banque pour faire ça. Mais ils vont manger des cochonneries, ils vont négliger leur hygiène de sommeil et ils vont pas vouloir mettre l'argent dans une inscription, dans une activité sportive, au gym, peu importe. Ils vont pas vouloir mettre de l'argent dans des activités culturelles pour s'éduquer, pour avoir du plaisir. Ils vont pas vouloir mettre de l'argent dans des traitements, par exemple, ou autres, pour régler leurs blessures. Fait que la seule chose qu'ils ont dans la vie, c'est leur corps. Fait que si ton corps fonctionne pas bien, si ton corps est blessé, si tu es en sous-performance au niveau de ton corps, tout le reste est affecté. Tu peux pas bien travailler, tu peux pas bien t'occuper de tes enfants, tu peux pas bien faire de sport, tu peux pas faire de loisirs, peu importe. Puis c'est la seule chose que les gens négligent. On entretient notre voiture pour s'asseoir dedans et conduire au travail, mais c'est nous qui devons s'asseoir dedans. Fait que si notre corps est pas capable de s'asseoir dedans parce qu'on le néglige, ben ça marche pas ce qu'on fait. Puis les gens ont tendance, je fais le parallèle avec les blessures parce que c'est ce que je connais, les gens me consultent, là, puis la moyenne des gens, ça fait pas 1 mois ou 2 mois qu'ils ont leurs blessures. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ridicule à quel point les gens attendent avant de régler leurs blessures. C'est un non-sens. Et les gens se disent, je vais attendre que ça passe, je veux pas dépenser 500 $ pour 5, 6, 7 traitements de physiothérapie. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que si ça fait 1 an que ta blessure est là, ben c'est peut-être 2 000 $ de physiothérapie que tu vas devoir dépenser. Puis c'est peut-être aussi de la psychologie, puis de l'ergothérapie, puis un kinésiologue, parce que toute ta vie a été affectée, puis il faut que tu te remettes en forme, que tu te reprennes tes repères, que tu sortes de ta dépression parce que des douleurs peuvent amener une dépression ou vice-versa. Fait que, tu sais, les gens négligent vraiment cet aspect-là. Ils n'entretiennent pas la seule machine qui leur permet de fonctionner, puis c'est leur corps. Puis ça passe par 3 piliers. C'est l'activité physique, le sommeil, l'alimentation. Puis je rajouterais un 4e qui serait le bonheur. Faut que tu sois heureux. Si t'es pas heureux, ça marche juste pas.
Ah ouais, puis c'est vraiment intéressant. Moi, je le sais, je vois aussi dans ma clientèle, j'ai beaucoup de personnes âgées, et puis ça tend toujours, comme tu dis, c'est des blessures qu'ils ont accumulées pendant des années, et puis quand tu commences à faire l'exercice, avec, oh, miracle, ça fait du bien, j'aurais dû le faire avant, et puis bon, les gens ne sont pas éduqués, donc d'où tes idées d'éduquer plus tôt et plus jeune, ça c'est super. Mais là, j'ai trouvé vraiment intéressant que tu aies mis l'aspect financier en avant, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que faire prendre conscience aux gens qu'aujourd'hui, ça peut te coûter... Ben, si tu t'y prends tôt, ça te coûterait que 500 $, alors que si tu attends 1 an après, ça te coûte 2 000 $. Je pense que là, ça parlerait plus aux gens aussi. Et puis, comme tu dis, les gens sont, bon, on va pas utiliser, bon, ils sont quand même matériels. Ils vont, comme tu dis, ils vont favoriser leur maison, leur auto, leur ordi et tout. Mais si tu leur fais prendre conscience que ce petit investissement tôt va permettre d'économiser beaucoup plus tard, je pense que là, tu arrives à toucher des gens.
Puis, tu sais, je ferais du pouce là-dessus. Tu dis les gens sont matérialistes. Je pense que c'est vrai, mais je pense que les gens sont aussi très dans l'instantané. Les gens veulent plus que jamais des solutions, des remèdes et des réponses tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Donc, les gens préfèrent payer pour acheter des Advil et camoufler la douleur parce que ça coûte en termes de temps. Et ils préfèrent faire ça que de prendre une prise en charge, par exemple, avec un professionnel de la santé qui va les guider à les ramener sur un chemin qui va faire en sorte qu'ils vont plus se reblesser et plus vivre justement tout le temps des bobos. Fait qu'on est tout le temps encore dans l'instantané. Les gens veulent pas. Puis tu sais, je dis les gens, on s'entend là. J'ai pas les statistiques de ça. Je sais que c'est un problème général, mais je peux pas dire exactement combien de personnes. Peut-être que je généralise un peu, mais je n'ai pas de problème à le faire si ça peut sensibiliser les gens au fait que la pilule miracle, il faut arrêter de la chercher. Puis s'il y avait un médicament miracle, crois-moi, tu ne serais même pas capable de te le payer tellement il serait cher. Okay? Il n'y a pas de pilule qui répond à toutes les blessures. Puis les gens recherchent tout le temps la solution. C'est quoi la chose spécifique que je peux acheter qui va guérir tout ça? Alors que si les gens reviennent à la base, leurs trois, quatre piliers, ben les choses qui vont s'arranger tout seul.
Oh, et puis on peut le voir sur Internet. Je ne sais pas si tu connais un peu copywriting. C'est des stratégies marketing qui pour parler aux clients, pour essayer de leur vendre des choses. Puis on le voit quand ils cherchent des mots-clés, douleur, dos. Et puis, ouais, voici, moi, vous avez des douleurs au dos depuis des années. Voici la solution miracle que j'ai utilisée. Grâce à ça, j'ai pas mal au dos. Et puis là, ils vont te vendre des solutions rapides qui, en majorité, vont rien donner parce que on le sait, le corps humain, c'est sur du long terme et tout. Mais ouais, c'est ça, les gens sont un peu addicts au rapide. Tiens, on le voit, les fast-food, tu commandes, t'as ton repas en 3 minutes,
Ben
tu vas sur
oui.
information de suite, sur Google, tac-tac, tu juste le temps de taper le mot, t'as ton information et tout. Mais le problème, c'est que le corps ne fonctionne pas comme ça.
Mais c'est fou parce que remonte juste à il y a 15 ans là, ou 15-20 ans, te connecter à Internet, ça prenait 7-8 minutes parce qu'il fallait que tu branches le truc, puis là, tu peux pas utiliser le téléphone parce que ton Internet.
Là, ça, et puis t'attendais la page qui chargeait pendant 3 à 7
Exact.
secondes.
Fait que, tu sais, on dirait qu'on a perdu cette patience-là. Puis moi, j'en suis autant victime, là. Quand mon téléphone ne charge pas ma page en 5 secondes, je trouve ça lent. Et il y a des années, ben, je pesais sur l'ordinateur, puis j'allais faire la vaisselle pendant que ça s'ouvrait parce que je savais que ça prenait le temps. Mais on développe tellement une dépendance à l'instantané que les gens n'ont plus de patience pour prendre le temps de s'aider. Puis là, je l'applique surtout aux blessures parce que c'est ce que moi je connais puis c'est ce que je vois. Mais tu sais, s'il y a une chose que les gens peuvent retenir de ça, là, une blessure qu'on va appeler musculo-squelettique, fait qu'une blessure à un os, à un tendon ou tu sais, à un muscle, à un ligament, à une articulation, c'est supposé guérir tout seul si tu mets le corps dans le bon environnement. Mais il faut que tu trouves la personne qui va t'assurer que ton corps est dans le bon environnement. Mais si les blessures y restent là, plus qu'un mois, 2 mois, 3 mois, ça ne partira pas tout seul. Tu as besoin d'un coup de main. Puis il n'y a pas de problème à consulter quelqu'un. Ils sont là pour ça. Puis en général, quand ils font des études, puis ils regardent après combien de temps les gens consultent, là, c'est sûr que ça coûte moins cher en coûts totaux quand les gens ont consulté plus tôt. Quand on parle de maladies, de blessures qui ne sont pas dans les blessures graves, là, tu sais, ou dans les maladies graves, ça, c'est autre chose. Mais la prévention, ça demeure. Tu sais, la meilleure façon de guérir une blessure, c'est de ne pas avoir ta blessure. Fait qu'il y a beaucoup ça qu'il faut faire.
Il faut que tu lances ton projet. J'adhère à 100% là. Il faut que tu ailles faire de la promotion si on veut pas avoir des générations qui vont se blesser, qui vont être encore plus impatients et encore avec plus de graves blessures. Il va falloir que tu mettes le boost dessus. Je vais te
Puis tu sais,
rajouter une
c'est.
petite.
Ouais, vas-y, vas-y.
Vas-y.
Non, non,
Toi, je t'en
vas-y,
prie
c'est bon.
d'abord. Non, bah, écoute, j'allais dire, je vais te rajouter une petite pression de plus parce qu'on arrive pas mal à la fin. Et puis, si c'était moi, ça durait au moins 2-3 heures, mais il va falloir que je coupe un moment.
Ouais, moi aussi, il faut que j'aime faire couper les cheveux.
Moi, de mon côté, ça va.
Ouais, tout est correct.
Je pose toujours cette question à mes invités, et sans toi libre de me dire j'ai pas le temps et tout, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un article pour mon blog, toujours en regardant l'esprit du blog et un peu sur l'entrepreneuriat en santé, ça pourrait être sur le podcast, ça pourrait être ta stratégie ou quoi que ce soit, est-ce que ça t'intéresserait?
Ah, assurément.
Bah écoute, je le prends en note et puis le jour où tu auras un moment, je
Ouais,
t'enverrai
le
le.
moment, ça va être ça qui va être à confirmer. Mais oui, assurément que je peux trouver le temps pour faire ça, là, c'est sans aucun doute. T'sais, ton projet aussi, puis c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. On avait échangé un peu avant aussi. Le projet que tu as de mettre en valeur tout l'aspect d'entrepreneuriat, de création en termes d'innovation en santé, c'est des valeurs qui me rejoignent. Assurément. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé le podcast. Fait que ça me ferait grand plaisir de donner un peu de mon temps là, pour pouvoir te construire un petit quelque chose. On s'en parlera pour le format là, de ce que tu désires.
Et puis ouais, moi, c'est pareil que toi, c'est arrivé sur un constat de j'ai des projets d'entrepreneuriat aussi, mais j'ai réalisé à un moment que on n'a jamais été formé pour comment tu veux te lancer en affaires, si tu veux une clinique, qu'est-ce que ça prend, quel statut, quel. On n'a jamais été. Alors, tu vois, moi, je me suis auto-formé, je suis allé chercher des cours de marketing, des cours de comptabilité et tout, mais je vois que dans la majorité, et puis je sais un peu qu'à l'UdeM aussi, vous avez quand même eu un petit cours dessus, mais c'est assez bref, et puis ça rentre pas trop dans les détails. Mais c'est ça que je veux essayer de partager aux gens, c'est d'essayer de concrétiser leurs projets, que ça. Puis, ils veulent pas, c'est des projets dans la santé, donc leur projet aura un bénéfice aussi à leurs patients. Donc.
Ouais, puis tu sais, comme tu as dit, on a eu un peu de formation à l'université, là, en gestion, en marketing. C'est sûr que c'est pas. La physiothérapie, ça passe pas par le marketing nécessairement. Tu sais, on fait des soins de santé, puis c'est sûr que ben, les patrons de clinique n'ont pas le choix de faire du marketing. Leur but, c'est d'aider les gens. Donc, il faut avoir des gens dans la clinique pour que ça fonctionne si on veut aider le plus de gens. Mais il ne faut pas oublier une chose, l'entrepreneuriat ou le, tu sais, l'innovation. Ça vient de l'intérieur de la personne, ça vient du cerveau, ça vient des idées. Fait que, tu sais, le produit, c'est souvent la personne qui l'a construite. Fait que ça, on ne peut pas enlever ça à la personne, puis ça ne s'apprend pas à l'école. Tu peux apprendre la théorie, tu peux apprendre comment les finances fonctionnent, tu peux apprendre. Évidemment qu'il y a une grosse théorie derrière le marketing, puis, tu sais, moi, je n'ai pas fait de formation là-dedans, puis probablement que ce serait bénéfique éventuellement si je veux pousser ça un peu plus loin. Mais. Faut que ça parte de quelqu'un qui a une idée, qui a un projet, qui a une motivation. Puis, tu sais, il n'y a personne qui fait son projet s'il n'est pas passionné. Fait que ça part d'une passion, là. Comme toi aussi, probablement que tu as une passion pour cette écriture de blog-là, la volonté de vouloir amener de l'information aux gens.
Exactement. Et puis, comme tu dis, il faut pour qu'un projet fonctionne, tu l'avais dit tantôt, mais faut que tu aies du fun, il faut que tu aimes ce que tu diffuses, ce dont tu parles et tout. Et si t'as pas cet aspect-là, bah écoute, t'es voué à l'échec,
Ouais,
sincèrement.
c'est ça.
Ok, mais écoute, c'est pas mal la fin. Donc, je vais résumer un peu. Donc, Alexis Goujon, qui a lancé récemment le podcast Parle-moi de santé. Donc, on peut le trouver sur Facebook, sur Spotify, Twitter, YouTube. Est-ce que tu as une autre adresse de contact qu'on pourrait diffuser pour ceux qui écoutent ou c'est essentiellement Facebook?
Ben, si les gens ils veulent communiquer avec moi par le podcast, la façon la plus simple, c'est d'envoyer un courriel, parle-moi de santé, tout collé, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Donc, parle-moi de santé @gmail.com. Sinon, les gens peuvent m'écrire sur la page du podcast sur Facebook, sur la page Instagram. Ils peuvent m'écrire n'importe où sur ces plateformes-là. Je réponds généralement assez rapidement. Donc, si les gens veulent collaborer, si les gens ils veulent venir au podcast, si les gens ont des questions, des suggestions de sujets ou d'invités, moi, je suis ouvert à tout. Fait que plus on est de fous, plus on rit, plus on a de fun.
En tout cas, Alexis, je te remercie. J'ai vraiment apprécié cet échange. Un très beau projet. Tu touches des valeurs que j'aime dans la prévention, toujours dans le domaine de la santé. Je pense que tu as des beaux projets qui s'en viennent aussi. Et puis, je suis prêt à parier. Si je fais un podcast un an après, que tu vas avoir pas mal développé tes affaires.
Merci beaucoup, Zaki. Ça fait un plaisir.
Merci, au revoir.
Ciao.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de l'entrevue sur la plateforme de votre choix, comme Apple Podcast ou Google, et même à partager à vos amis. Vous retrouverez sur le blog selancerensante.ca le résumé des entrevues ainsi que des articles sur l'entrepreneuriat en santé. Rejoignez aussi les différents groupes Facebook Se lancer en physiothérapie et Se lancer en ostéopathie afin d'échanger avec d'autres entrepreneurs.